Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 363, on ne s'arrête plus. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je suis avec la Bible de la NCAA et de la NFL, Grégory Richard, pour cette émission. Salut Greg.
Bordel, cette pression. Bonjour Raoul et bonjour à tous.
Bah ouais, je suis un peu obligé. C'est vrai, c'est pas complètement usurpé comme titre. On a Alain Mattei à la technique aujourd'hui, petit changement de poste, donc Alain, bonjour.
Salut, j'essaie de faire comme Camille quand il s'éloigne du micro ou quand il,
salut.
Il est un peu loin. Bonjour, je suis là, je suis votre Camille aujourd'hui et on fait une bise à Camille.
Bien sûr, on l'embrasse. Merci Alain. Le format du jeudi, maintenant vous le connaissez, le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions des auditeurs. L'affiche, c'est le choc de lundi soir entre les Ravens et les Chiefs. Et pour le sujet du jour, on va s'attaquer aux entraîneurs qui sont déjà en danger après 2 semaines. C'est le sujet enflammade, bien sûr, mais c'est comme ça, on est là pour ça aussi. Greg, est-ce que tu es prêt?
Malheureusement, je le suis par rapport au sujet qu'on va aborder.
Parfait. Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Je n'arrive pas à lui réallumer mon micro, c'est bon. Greg, est-ce que on part du principe que seuls les coachs des équipes à 2 défaites et 0 victoire sont en danger pour toi?
Bah, pas forcément. Après, c'est toujours des questions de... Alors, je te dis pas qu'il n'y a pas que des équipes à 0-2 dont on va parler aujourd'hui, mais après, bon, forcément, il y a des calendriers qui peuvent éventuellement, en fonction des différentes confrontations, oui, permettre à certaines équipes d'être à une victoire. Ce qui les empêchera pas d'enchaîner par 14 défaites. Mais bon, on présage un peu. Après, voilà, on est, pour rappel, hein, les Giants, par exemple, ont gagné le Super Bowl en 2007 en commençant par une fiche de 0-2.
Tout à fait.
Bon, on va pas tirer trop de conclusions là-dessus, mais c'est pas parce qu'on n'est pas à 0-2 qu'on n'est pas potentiellement menaçable en fin de saison.
De toute façon, voilà. Aujourd'hui, on l'assume, on l'a dit. Bien sûr, après 2 semaines, difficile de tirer des conclusions, mais on aime le jeu. On est là pour ça aussi, pour le risque. Et j'ai pris la liste des 11 équipes, puisqu'il y a 11 équipes aujourd'hui qui sont effectivement en 0 victoire et 2 défaites. Je te la donne. Il y a les Eagles, les Jets, les Giants, les Vikings, Dolphins, Texans, Lions, Broncos, Bengals, Panthers et bien sûr, les Falcons. Alors, dans cette liste, on peut peut-être en éliminer déjà quelques-uns. J'ai mis de côté peut-être les Panthers et Giants. C'est un nouveau coach.
On va peut-être pas
tout de suite tailler dedans.
On est d'accord. Les
Texans, tu disais, sur la base du calendrier, qu'ont quand même joué les Ravens et les Chiefs, ça me paraît très dur d'envisager le départ de Bill O'Brien, même s'il serait mérité au vu de ce qu'on a vu les dernières années. peut-être qu'aujourd'hui on va pas trop en parler, si tu es d'accord.
Ah ouais, écoute, vas-y, vas-y.
Alors moi je l'ai enlevé, mais on pourra en parler. Il y en a petit deux autres que j'ai enlevé. Ouais, alors très bien. Et j'ai aussi enlevé Dolphins et Broncos dans la mesure où ils sont peut-être en transition, notamment au poste de quarterback. Alors les Broncos en plus ils viennent de perdre Drew Lock. Les Dolphins ils attendent peut-être d'avoir Tagovailoa qui va arriver. Donc peut-être qu'on peut les écarter aussi.
Ouais, non, je te rejoins sur. Ok. Hormis les Texans, globalement, bon, on est assez d'accord.
Alors, regarde les Texans dans ce cas-là. Donc, il nous en reste 7. Je te propose de commencer par les 3 qui sont manifestement aujourd'hui déjà un peu sur la sellette, mais pas que à cause de cette année. Il y a les 3, Adam Gase chez les Jets, Matt Patricia chez les Lions et Dan Quinn chez les Falcons. Est-ce que tu es d'accord avec ce trio infernal?
Oui, je pense que c'est un tiercé qui peut éventuellement rester compétitif jusqu'à la fin de la saison. Alors après, si je me permets de commencer à développer un peu justement sur le trio, mais c'est vrai que alors Dan Quinn, forcément, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit en début de semaine par Alain et Raph, ou ce qui a été dit d'ailleurs en règle générale, bien entendu, que c'est une faute professionnelle qui a été faite du côté de Dallas, que ce n'est malheureusement pas la seule. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de difficultés de préparation de match la saison passée quand il était à l'époque coordinateur défensif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, ils ont quand même joué Seattle et Dallas.
Oui.
Donc, même si ils devaient y avoir un bilan de 1 partout de par les circonstances du match du côté de chez les Cowboys.
Voire de 2-0, hein, franchement.
Bon, à Seattle, globalement, les Seahawks ont quand même dominé le match. D'accord, même si l'écart n'est pas aussi monstrueux que peut le laisser penser le score. Mais en tout cas, voilà, le match à Dallas, ils doivent le gagner. Et voilà, après, l'adversité est ce qu'elle est. Et c'est peut-être un peu plus problématique, même si on dira par exemple que les Jets ont joué Buffalo et bon, San Francisco diminué, mais San Francisco quand même. Mais oui, non, c'est sûr que ouais, non, Dan Quinn, je pense, est arrivé à une fin de cycle. On savait déjà le fait qu'il ait réussi à rebooster son groupe après la bye week la saison passée. On avait pu éventuellement envisager une remise en question, justement, une réorganisation qui manifestement n'a pas l'air de porter ses fruits, en tout cas défensivement. Quand on prend 39 points par match, ça saute aux yeux.
C'est beaucoup.
Et oui, donc je pense que là, à un moment donné, on n'arrivera pas au terme de cette saison, à moins, je le répète, d'un calendrier qui s'apprête à être un peu plus abordable. Peut-être une moitié de saison, on se retrouverait à 3-3, 4-4 à peu près pour Atlanta. Et là, à ce moment-là, on faudrait voir sur les matchs un peu plus couperets, puisqu'ils vont jouer deux fois les Bucks, les Saints, etc. Donc voilà, mais très, très, très sincèrement, oui, Dan Quinn est bien entendu sur la sellette. Après,
ouais, bon, pour contextualiser un tout petit peu Dan Quinn que nos auditeurs resituent, mais au global, j'ai regardé les stats depuis qu'il est coach de Falcons, il est à 43 victoires et 37 défaites sur 80 matchs, 3 victoires et 2 défaites en playoff, ce qui est pas du tout déshonorant. En fait, ce qui pêche, et je pense que c'est peut-être ça aussi un peu qui fait qu'il est aujourd'hui dans ce tiercé perdant, c'est que il est à 7 victoires et 9 défaites sur les 2 dernières saisons, pas de qualification en playoff, donc peut-être que ça commence aussi un petit peu à tirer la tronche du côté des fans et du côté du haut management des Falcons. Et voilà, il y a ces deux matchs de début de saison qui sont difficiles à encaisser, je pense aussi, et qui viennent peut-être parachever un sentiment un petit peu frustrant des deux dernières saisons, alors qu'il a quand même un groupe qui est censé être meilleur que ça.
Bah c'est ça, non mais juste pour faire relativement court, son problème c'est un manque d'identité vraiment. C'est quelle identité il a vraiment apporté à la franchise d'Atlanta depuis qu'il est arrivé? Il a continué de capitaliser sur des éléments forts qui étaient l'attaque, et il a continué d'être exposé sur des domaines qui étaient problématiques à Atlanta depuis plusieurs années, à savoir les lignes et la défense en règle générale. Et encore plus le jeu au sol depuis quelques années désormais, qui avait réussi à redorer un petit peu Shanahan, et c'est plus le cas désormais.
Voilà.
On va voir comment ça se passait avec Todd Gurley, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas fabuleux ce que met en place Dirk Cutter. Donc voilà, c'est ça qui, au final, pourrait sonner le glas, je pense, pour le coach des Falcons.
Donc on verra. Pronostic pour toi, il part quand?
Si, il part. Fin de saison. Enfin, Arthur Blanc, qui est pas traditionnellement, dégage pas ses coachs en cours de saison. Même Petrino, je crois que c'est lui qui était parti avec Partey Fracas en 2007.
Dan Quinn, il remplace pas. Il fait pas partie de ceux qui ont profité de la fameuse malédiction de Londres.
Non, Mike Smith s'est viré en fin d'année. C'est sûr.
Ok. Je pensais, j'avais un souvenir comme ça, mais non. Alors très bien. Et peut-être qu'au moment où il y a eu un match perdu à Londres, on s'est dit c'est la fin pour Dan Quinn. En fait,
ah sûrement, je me rappelle d'un super match contre Détroit où il menait 21-0 et il perd 22-21. C'est une affaire qui se poursuit chaque année à Atlanta.
C'est ça l'identité finalement de Dan Quinn.
Les montagnes russes, mais jamais dans le bon sens.
Aïe. Bon, les deux autres alors. Oui. Adam Gase ou Matt Patricia, choisis ton poison pour commencer.
Bah écoute, tu parlais d'identité. Enfin, ouais, là, on est aussi dans des problèmes d'identité, mais là, c'est au-delà. Là, c'est une question même de leadership, je pense. On a un Matt Patricia qui est un peu sur le côté stéréotype que pouvait avoir un Greg Schiano il y a quelques années, c'est-à-dire un coach qui vient de l'arbre Belichick et qui s'imagine qu'avec un petit peu de côté je sais ce que je fais, je vais vous montrer machin, un petit peu d'assurance mal contrôlée, ça peut faire le boulot. Et manifestement, il a jamais reçu l'adhérence de ses joueurs depuis le début à Détroit, hein. Et pourtant les saisons sont pas si catastrophiques que ça. Il y a cette année dernière où ils font troisième choix de draft, mais où globalement ils s'écroulent en fin d'année.
Enfin, ils encaissent. J'ai vu que c'était la pire défense à la passe. Ils encaissent 4550 yards.
Non. Attends. Je suis pas en train de te dire que l'équipe en elle-même était, enfin, que toutes les escouades étaient bonnes. Mais
oui, mais on parle d'un coach défensif. C'est surtout ça l'argument.
Je veux dire, sur le papier, parce que pour le coup, on va parler de Gaze tout à l'heure. Ils ont pas forcément des équipes qui font 2-14 ou 3-13 sur une saison. Il y a eu des blessures de Stafford, mais une gestion des tranchées aussi. Très problématique, un schéma défensif qui, je pense, a jamais été vraiment intégré par ses joueurs. Il suffit de voir un Jarrad Davis, encore une fois, qui est très irrégulier, notamment sur le poste de linebacker, sur la ligne défensive, très Flowers, etc. Bon, pourtant, Flowers le connaît. Enfin, voilà, on sait qu'il y a toujours ce truc où il faut qu'il ramène ses joueurs pour que ce soit bien intégré. Mais au final, est-ce qu'il arrive à créer une émulation totale? C'est pas l'impression qu'il donne. Et encore une fois, je parlais de Dan Quinn avec ses comebacks incessants en défaveur d'Atlanta. Oui. Les deux premières semaines de Détroit, c'est deux matchs où il mène avec une avance assez confortable. Alors après, Green Bay sur la distance, c'est normal que les Packers gagnent, mais c'est deux matchs aussi où il s'effondre au fur et à mesure de la rencontre.
C'est vrai. Le bilan de Matt Patricia à la tête des Lions, c'est quand même 9 victoires seulement pour 24 défaites et un nul en 34 matchs. Mm-hmm. C'est très peu, et je te le disais l'année dernière, ils sont la pire défense face à la passe, donc 4550 yards encaissés. Tu te dis que encaisser 4550 yards quand tu joues deux fois les Vikings, deux fois les Packers, très bien, mais tu joues aussi deux fois les Bears dedans. Les Bears, j'ai pas souvenir que ce soit l'attaque aérienne la plus prolifique de la ligue.
Non, bien sûr.
C'est quand même une contre-performance.
Et juste, si tu me permets, sur les 9 victoires que tu évoques, il y a une victoire contre New England, de mémoire. Il y a un gros aussi qu'ils avaient épinglé l'année dernière. Ils passent pas loin de taper Kansas City. Enfin, ça, on en avait parlé. C'est à se demander, justement, si Matt Patricia met pas le bleu de chauffe, on dira, prépare pas son équipe pour les grosses échéances. Et pour le reste, dit, bah, de toute façon, mon système est trop bon. Donc, les joueurs ont forcément performé contre une équipe à notre portée, et j'ai pas l'impression que ce soit ça.
Et puis tu dis, il faut qu'il ait ses joueurs. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ses joueurs ou c'était les joueurs de Belichick? C'est ça aussi le truc. Tu vois, les mecs, typiquement Trey Flowers, bah oui, d'accord, c'était son coach défensif. Enfin, c'était Belichick d'ailleurs.
Oui, bah on peut toujours poser la question de savoir ça c'est pas la première fois qu'on en parle, si les assistants de Belichick fonctionnent mieux, même en avec allant Daniels. Chercher plein de joueurs.
On t'embrasse.
Ouais, enfin Brian Flores, je pense que ça va être à surveiller quand même au fur et à mesure. Hein.
Ça a l'air un peu mieux parti, globalement.
Ouais, bon, je sais pas, j'ai encore j'attends de voir. Oui, il a réussi à intégrer Eric Rowe dans sa défense, notamment, mais bon, je sais pas, j'attends de voir, notamment pour des Vandeuil ou ce genre de profil-là. Mais c'est sûr que c'est peut-être plus des joueurs qui correspondent au style de Belichick. De toute façon, quand Patricia était coordinateur défensif de New England, ça fonctionnait. Dans mon esprit, la défense n'était paradoxalement pas aussi énorme qu'elle peut l'être aujourd'hui. Hein. C'est depuis que Patricia est partie à Détroit qu'on a vraiment cette défense de nouveau élite côté de Foxborough. Parce qu'elle était, dans mon souvenir, en tout cas, elle était très, très décriée quand Patricia en était le coordinateur défensif.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un gros turnover j'arrive pas vraiment à réaliser. Hightower, il était déjà là.
Il y a peut-être Gilmore carrément entre-temps qui est arrivé peut-être à la fin de la période Patricia. Ouais. Mais voilà, dans une défense où tu as globalement des no-names, de toute façon, qui est Patricia ou pas, on a quand même vu une grosse différence d'écart, je trouve, entre les deux périodes.
C'est vrai. Alors, du coup, pronostic maintenant, Patricia, saute pas, à quel moment? Ah, franchement, là, tu vois, je spoil un tout petit peu la suite de l'émission, mais le match, là, il joue une équipe qui est normalement complètement à leur porte. Et j'y arrive plus à me retrouver qui c'est, mais bon, je te reposerai la question tout à l'heure. Ouais,
Arizona.
Ah ouais, donc on n'est pas du tout à leur portée.
Non, c'est un peu plus compliqué. Et je crois qu'ils jouent les Saints la semaine prochaine.
Voilà, et
on peut être à 0-4 assez vite, hein.
C'est ça. Et est-ce que, même si c'est des équipes qui sont plus fortes qu'eux, est-ce que deux défaites supplémentaires pourraient déjà signifier la saute qui se fait décapiter?
pour répondre clairement à ta question, je pense que le curseur, ça va être la bye week. Ça va être de savoir exactement quel sera souvent, le bilan des Lions à la bye week. Et alors, je sais plus exactement en quelle semaine ils sont exemptés, mais oui, c'est sûr que si le bilan est très favorablement négatif, ça peut quand même être problématique à considérer après pour mettre qui à sa place. Darrell Bevell, le coordinateur offensif, peut-être, mais franchement, je sais pas. Donc,
c'est toujours un peu le problème. Mais les Lions, tu vois, tout à l'heure, tu disais Arthur Blank et du côté des Falcons, on n'est pas trop à couper les mecs en milieu de saison. J'ai pas l'impression que du côté des Lions, ça leur pose un problème.
Non, je crois pas non plus. Je sais pas si ça arrivait souvent,
ça fait un peu partie de ces franchises qui ont l'air moyennement gérées. Et du coup, on se dit c'est pas grave si il part en plein milieu. De toute façon, on est plus à ça près. Je viens de voir la semaine de repos. Elle est en semaine 5. Donc effectivement, ils peuvent arriver à 0-4 en semaine de repos. Et là, ça va peut-être être compliqué.
Ouais, bon après je sais pas si à 0-4 ils vont tirer les enseignements vraiment, mais bon, faut avoir le visage encore une fois, mais si les Lions continuent de s'écrouler sur des périodes aussi significatives que ce qu'on a pu voir lors des deux premières semaines, à voir.
J'ai un truc encore mieux pour toi, en semaine 7, c'est Lions contre Falcons. Est-ce que si les deux sont encore en place, Dan Quinn et Matt Patricia, le perdant de ce match s'en va, c'est genre le match tu vois élimination directe.
Ah, c'est possible. Après, je te dis franchement,
c'est rigolo ça.
À mon sens, c'est même pas une question de victoire ou de défaite. Ça sera vraiment une question de contenu pour les deux hommes. Je pense que si vraiment on vient les dégager en cours de saison, c'est que à un moment donné, il y aura eu vraiment quelque chose de très très problématique d'un point de vue de ce qu'aurait été montré sur le terrain.
Très bien. Adam Gase, du coup, on finit par lui. Je te redonne son bilan avec les. Avec
oui,
les
fait Jets. Mal au sein des Jets. T'as raison.
7 victoires, 11 défaites, finalement pas si terrible. Maintenant, dans l'impression générale, ça a pas l'air de marcher avec Sam Darnold, il lui fait pas confiance. Enfin, on a l'impression qu'il lui fait pas confiance. Eu donné la dernière déclat qu'il fait où il dit bah j'avais pas le choix que de jouer comme ça. Et puis, je sais pas, il dégage une espèce de sentiment de malaise un peu Adam Gase avec ses regards perdus et un peu inquiétant. Ouais, moi je sais pas, il m'inspire pas confiance.
Alors tu vois, pour le coup, alors Quinn et Patricia, je dirais que je pense qu'ils veulent mettre quelque chose en place qui est pas bien compris ou qui est pas bien exécuté.
C'est des génies,
je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent mettre en place.
Ouais, peut-être.
En vrai depuis le début, il y a pas vraiment de plan, il suffit de voir. Enfin, après pour le coup, l'organisation en elle-même est quand même particulière, on change de general manager après la draft de la saison passée. Donc c'est sûr que de toute façon, avec déjà un head coach qui a du mal vraiment à mettre en place ses idées, avec qui on le rappelle, on avait évoqué quand même des petites frictions en interne avec son coordinateur défensif, Greg Williams. Malheureusement, c'est toujours la même problématique avec les Jets. C'est ce que je ne comprends pas avec cette franchise depuis des années et des années. C'est que autant Boyle, ça pouvait s'entendre comme choix, mais aller chercher des coachs comme Ryan ou comme Gase qui sont peut-être un peu plus dans le côté m'as-tu vu que dans le côté vraiment. Alors même si Rex Ryan était beaucoup plus compétent d'un point de vue technique qu'Adam Gase, hein, attention, entendons-nous bien.
Ouais, mais
c'est
vrai que
ce côté
un
petit peu, ce serait bien d'avoir un petit coach qui est capable aussi de calmer un petit peu l'ambiance, l'atmosphère globale, plutôt qu'un coach qui continue de se dire bon ben je suis trop fort, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis au final malheureusement on voit pas grand chose.
Ouais, non.
Et là oui, pour le coup j'anticipe ta question, mais en cours d'année pour moi Adam Gase ça me paraît quasiment nécessaire quoi.
Je te donne les matchs, tu me dis à quel moment. Colts, Broncos, Cardinals, Chargers, Bills, Chiefs, Patriots, Dolphins, bye week. Oh là là, ça c'est ouh. C'est relevé en plus, hein.
Ouais, peut-être à la bye week, hein. Histoire de voir. Et puis c'est pareil, tu vas dire à Greg Williams, bah vas-y, tu voulais le poste, vas-y, on voit ce que tu donnes jusqu'à la fin de la saison, et a priori ce sera pas lui qui continuera l'année prochaine. Enfin moi en tout cas c'est ce que je vois comme scénario probable, hein, mais
Il leur restera ça veut dire qu'ils en plus là, si à la bye week ils auront déjà joué 4 des 6 matchs de division, vu qu'ils auront joué 2 fois les Bills, 1 fois les Dolphins et les Patriots. De toute façon leur saison, je pense pas qu'ils fassent qu'ils aient beaucoup d'espoir dessus, mais ça. Effectivement, arrivé à la bye week, donc en semaine 11, il se peut qu'il y ait un petit peu de changement à la tête des New York Jets. Alors, là, on a fait les 3 évidents, on en avait écarté 4 d'avance. Est-ce que dans les 4 suivants, il reste donc Mike Zimmer, Zach Taylor, Doug Pederson et Alors, j'ai rajouté à cause de toi Bill O'Brien. Du coup, je veux bien qu'on commence par lui. Je suis curieux d'entendre ton avis là-dessus.
Non, je vais faire vite. Je pense qu'on est juste dans une fin de cycle. Globalement, on l'a dit, c'est un coach qui va souvent en play-off, mais qui, malheureusement, je trouve, est quand même d'une inconstance assez assez fréquente dans sa manière de gérer les matchs. Et c'est peut-être au bout d'un moment, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être se dire, bon, c'est un bon coach pour les Texans, pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est le coach qui peut leur permettre de franchir un palier pour aller vraiment chercher le Super Bowl et bonifier les années d'Ishan Watson? J'en suis pas persuadé, donc c'est surtout pour ça. Et puis là, pour le coup, on parlait de déconvenues en play-off. Il y en a quand même eu quelques-unes, ne serait-ce que deux contre Kansas City que j'ai en tête. Une grosse rouste qu'ils avaient pris au début de son mandat à l'époque du Reliant Stadium.
C'était et puis pas là, encore Deshaun Watson d'ailleurs, le quarterback.
Je suis pas sûr, c'était peut-être encore Osweiler, je vais pas me tromper. Mais voilà, et puis cette défaite l'année dernière à l'Arrowhead Stadium où globalement, s'ils s'imposent, vu le scénario du début de match, c'est pas non plus scandaleux.
Ils perdent face aux futurs champions, donc c'est toujours
dur. Mais c'est ce qui peut laisser encore plus de regrets. C'est ce qui peut laisser encore plus de regrets. Houston serait pas forcément allé au bout, je pense pas en tout cas. Je les voyais pas aussi complexes ça. Mais en tout cas, justement, ça peut laisser encore plus de regrets. Il y avait peut-être quand même la place, je pense, pour aller au Super Bowl.
Est-ce que si on vire O'Brien le coach, on garde O'Brien le manager général?
Tu te doutes bien que non.
J'espère que non. Dans les trois autres, moi, alors je leur ai trouvé une excuse à chaque fois. En l'occurrence, Doug Pederson, est-ce qu'il est, moi je trouve qu'il est un peu sauvé par les blessures qui peuvent peut-être sauver. Et puis bon, bah il a quand même un Super Bowl, donc ça, on peut peut-être lui laisser une chance. Zach Taylor, il vient d'avoir Joe Burrow, donc c'est peut-être pas le moment.
Oui, c'est que sa deuxième année aussi. Hein. Même s'il y a un gros point d'interrogation.
Adam Gaze aussi, c'est sa deuxième année, mais tu vois, Zach Taylor, bon, il vient d'avoir Joe Burrow, c'est peut-être pas le moment non plus de tout changer. Et Mike Zimmer, alors tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais avec les Falcons. En l'occurrence, je vois mal les Vikings le virer en milieu de saison. Ça a pas l'air d'être le genre. Non, il est là depuis longtemps. Il a vraiment installé.
Oui, et puis il y a eu une reconstruction assumée en défense avec des gros contrats dont il fallait se débarrasser. Donc, même si paradoxalement, c'est peut-être un peu plus l'attaque qui a l'air d'inquiéter, et notamment le poste de quarterback. Faut voir si Cousins notamment arrive à les rassurer cette saison.
Bah, lui est un coach défensif, donc là-dessus.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais enfin, pour le coup, est-ce que Gary Kubiak arrivera à faire le bon boulot qu'il a fait l'année passée, ça reste à déterminer. Mais bon, Zimmer n'est pas encore là pour 10 ans, selon moi.
Non.
Mais je le dégagerai peut-être pas tout de suite, surtout qu'il me semble qu'il a signé une prolongation pendant l'intersaison.
Alors ça, j'ai oublié de vérifier effectivement qui en était où de ses contrats, et puis voilà, comme je te dis, j'ai pas l'impression que Spielman soit le genre de manager général à vouloir faire sauter le coach en milieu de saison. Donc sur ces trois là, donc Doug Pederson, Zach Taylor, Mike Zimmer, a priori ça reste cette année.
Oui, je pense que globalement, ça devrait rester. Ouais.
Je ne les ai pas notés du coup, mais est-ce qu'il y avait d'autres coachs dans les équipes à 1-1 ou à 2-0, on ne sait jamais, que toi, tu voyais éventuellement sauter?
Attends, que j'essaie de revoir ça vite fait, que je me trompe pas. Bah, Anthony Lynn, quand même, j'attends de voir. Hein.
Ah bah, moi, je suis…
Anthony Lynn chez les Chargers, comment il va gérer cette question au niveau du poste de quarterback, bien entendu.
S'ils remettent Tyrod Taylor, il faut le faire sauter tout de suite. C'est ça la règle.
Doug Marrone aux Jaguars, c'est bien ce qu'on voit sur les deux premiers matchs. Son gros problème, là aussi, c'était un souci d'identité. Faut voir s'il arrive à rectifier le problème, mais je pense qu'à moins de 8 victoires, je le vois pas rester à Jacksonville. Ou alors, faudrait vraiment qu'il y ait que des défaites d'une courte tête. À mon sens, après, non, je pense qu'on a globalement évoqué toutes les équipes. Je pense que c'est les principaux autres candidats qui ne sont pas à 0-2 selon moi.
Très bien. Bon, ben voilà pour notre débat du jour. N'oubliez pas de bien retenir tout ce qu'on a dit et de vous moquer de nous si on avait eu tort. Parce que, évidemment, c'est le jeu. Mais non, on espère que tout se passera bien pour tout le monde. On ne veut le mal de personne. On va passer à l'affiche de la semaine après le petit jingle. Top right, 1, 2, 3, top right! Il y a eu deux jingles, c'est la fête. L'affiche de la semaine, donc, ce sont les Baltimore Ravens à 2 victoires et 0 défaites contre les Kansas City Chiefs à 2 victoires et 0 défaites. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. C'est le Monday Night Football. Incroyable, une affiche glamouro possible entre deux équipes invaincues. Le MVP face au MVP du Super Bowl. C'est rien que ça, déjà, ça se pose là.
Les deux derniers MVP, aussi.
Oui, en plus. Mais là, c'est encore plus récent, si tu veux. C'est vraiment les deux titrés individuels, deux titres individuels les plus récents. Il s'était rencontré en semaine 3 déjà la saison dernière, et Kansas City avait gagné 33-28. Depuis, Baltimore a perdu le match suivant face aux Browns, puis a tout gagné en saison régulière, et Kansas City a tout gagné tout court. Voilà, c'est dire où on en est au niveau de forme de ces deux équipes-là. Ma question, du coup, Greg, c'est quoi les faiblesses identifiées de ces deux équipes et identifiables peut-être, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a assez peu quand même.
Alors, je suis d'accord avec toi, il y en a peu. Je dirais à l'heure actuelle qu'il y a quand même des points d'interrogation qui reviennent notamment sur la ligne offensive.
Comment ? De Baltimore.
Bon, globalement, les deux.
Ah ouais.
Mais un peu plus quand même du côté de Baltimore. Faut dire qu'il y a quand même eu le départ de Marshall Yanda pendant l'intersaison. Alors attention, tout est relatif. Hein. Quand je dis qu'il y a des problèmes sur la ligne offensive, c'est à relativiser par rapport aux autres escouades. Et c'est pas dire que c'est les pires équipes de la ligue à ce niveau-là. Mais oui, il y a quand même des points d'interrogation, notamment à Baltimore vis-à-vis de la retraite de Marshall Yanda. Même si Tyree Phillips, le rookie, montre d'assez bonnes choses. Et puis venu de traîner un petit peu la patte, qui a été un peu mis sur le reculoir contre Houston, mine de rien, hein, parce que les Texans, ils ont quand même réussi, je trouve, à s'intégrer par moment dans la poche adverse. Donc peut-être sur la ligne offensive. Après, c'est sûr que il y a de telles forces identifiées en attaque du côté de Baltimore et Kansas City, des menaces capables de sévir partout, des lancers capables d'être réalisés rapidement, que ça aide à minimiser, je trouve, notamment ces quelques limites sur ces escouades-là. Après, non, franchement, t'as raison, je vois pas non plus énormément de grosses failles. Kansas City, peut-être quand même le poste de linebacker. Alors c'est vrai que ça revient un petit peu souvent. C'est pas le poste où ils ont le plus de playmakers. C'est souvent un poste où ils ont des joueurs assez besogneux et qui font pas tâche. Mais bon, c'est vrai que notamment sur le deuxième match à Los Angeles, ils s'est senti beaucoup en difficulté dans le duo Eclair et Joshua Kelly, le rookie.
Ouais.
Là, je pense qu'ils vont quand même avoir pas mal de clients en phase 2 pour potentiellement les malmener au sol. Donc, ça va être une donnée à surveiller.
Est-ce que, relativement bien sûr, le jeu aérien de Baltimore est peut-être le point qui traîne un peu la patte en attaque, ou c'est pas plus inquiétant que ça?
En tout cas, ça se voit pas tant que ça depuis le début de la saison. On l'a dit, Lamar Jackson a sorti une très bonne rencontre contre Cincinnati. Il a été très solide, je trouve, face à Houston également. Alors après, c'est sûr que c'est pas des backfields monstrueux, mais j'ai pas dans l'idée que les Chiefs en aient un à l'heure actuelle, même si le rookie Eldarius Sneed a réalisé deux picks sur ses deux premières semaines de compétition. Donc ça va être quand même à surveiller, mais on n'est pas, par exemple, à titre de comparaison, sur le backfield défensif de Baltimore.
Non.
Avec pour le coup Marlon Humphrey et Marcus Peters qui peuvent éventuellement exploiter la moindre erreur. Il n'y a pas trop, mais en tout cas la moindre erreur de Patrick Mahomes en l'occurrence.
Est-ce que Peters réussit une interception sur ce match?
Je sais qu'il en avait fait une l'année dernière. Je crois qu'il avait fait une interception contre les Rams.
J'ai un doute.
Je suis quasiment sûr qu'il en avait fait une.
J'ai oublié de vérifier. Je dois pouvoir te le dire assez rapidement.
Je suis même pas sûr s'il est déjà à Baltimore contre Kansas City l'année dernière. Je pense qu'il est tradé juste avant la deadline. Mais oui, non, c'est parfaitement possible. Hein. En tout cas, il va y avoir des duels assez excitants à voir, puisque je pense que Kansas City va pas se priver quand même pour essayer de jouer un peu plus en profondeur, hein, même si pour le coup, on attendait de tester les safety de Baltimore, et on sait que Travis Kelce reste la cible prioritaire de Mahomes. C'est peut-être là, à mon sens, où on va se rendre compte, parce que c'est pareil, sur le poste de tight end, Cincinnati et Houston, c'est peut-être pas aussi armé que Kansas City. Et là, on va voir si l'absence d'Earl Thomas peut être vraiment préjudiciable sur la couverture pour Baltimore. Et si, notamment sur le poste de linebacker, les rookies, Patrick Quinn, notamment, peuvent éventuellement réussir à contrecarrer cette bonne communication globale des deux hommes. Ça va être quelque chose d'assez intéressant à voir. Il y a la menace, bien entendu, des cornerbacks, mais je serais pas étonné que Kansas City, même s'ils vont garder leur nature de jeu profond, essaye de les tester très rapidement, notamment sur le poste de tight end et sur Travis Kelce.
Je te posais la question de Peters. Pour rappel, il a joué ses trois premières saisons à Kansas City, justement, 2015 à 2017, et il avait réussi 19 interceptions au cours de ces trois saisons. Donc ouais. Et c'est alors
il sera motivé, hein, ça c'est sûr.
Ouais. Il est né à 28 interceptions depuis le début de sa carrière. C'est le deuxième total le plus élevé parmi les joueurs encore en activité. Alors malheureusement, on ne donne pas qui est le premier sur ce total, mais voilà, c'est dire que ouais, il est là depuis, il a fait 5 saisons complètes, 28 interceptions en 5 saisons, c'est très fort. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question pour toi sur ce match? Oui, si, bien sûr. Est-ce que le, parce qu'on est dans l'enflammade là, on parle des coachs qui vont se faire virer au bout de 2 semaines. Est-ce que le gagnant de ce match va au Super Bowl?
Ah oui,
c'est comme, parce que bien sûr ça a un rapport. C'est complètement faux.
Alors le vainqueur de ce match-là, je sais pas, mais en tout cas, bon, je vais pas t'apprendre une énorme chose, mais je serais pas étonné que ce soit une preview de la finale de conférence.
Oui.
Où là, forcément, le vainqueur ira au Super Bowl.
Bravo, bien vu. Oui, c'est vrai, c'est une bonne manière d'esquiver la question.
Voilà, est-ce que ce match-là, je sais pas trop. Après, on avait vu que franchement, pour moi, Baltimore a quand même un petit ascendant. Hein. Je vends un petit peu mon pronostic en avance, mais Baltimore a quand même un petit ascendant. Et on se rappelle qu'ils avaient donné beaucoup de fil à retordre l'année dernière, justement, du côté de Kansas City. Hein, parce que on se rappelle, les Chiefs, ils doivent gagner sur une 3e, voire même une 4e, je crois, qui est complétée par Tyreek Hill, pour vraiment rester dans le match et le gagner au bout du compte. Donc, en tout cas, ça nous promet un match avec beaucoup de suspense si on reste sur la même, la même psychologie. Et du coup, oui, je pense que. Pardon, je me suis remis les pinceaux. Oui, on peut très clairement avoir. Baltimore peut envoyer un premier message, ce qu'ils ont fait assez souvent l'année dernière, notamment, on se rappelle, avec la déclaration un peu controversée d'Earl Thomas. Mais Baltimore peut envoyer un premier message en disant voilà, là, on a été gagné à Houston, qui était une équipe de playoff. Là, on va taper Kansas City, qui est le champion en titre. Et on est prêt à s'annoncer comme de nouveau l'épouvantail de la conférence américaine qu'il faudra aller chercher du côté de Baltimore.
Ça se tient. Dernière question pour toi, toujours bien sûr des questions les plus pertinentes possibles. Qui est le meilleur entre Butker et Tucker, sachant que leurs deux noms se finissent en cœur pour un kicker? Coïncidence? Je ne crois pas.
D'accord. C'est bien, c'est préparé tout ça, monsieur dame.
Bien sûr.
Écoute, forcément, là, je vais te dire que de par ce qu'il a montré, Tucker est meilleur sur le papier. Maintenant, voilà. On peut très clairement se poser la question quand même de savoir si on n'a pas deux des meilleurs kickers de la ligue, parce que Harrison Butker, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément un des kickers les plus mis en avant de par l'explosivité et les concrétisations permanentes de son attaque. Maintenant, très clairement, c'est un kicker qui se montre extrêmement précieux à Kansas City ces dernières saisons, que ce soit sur courte ou voire sur longue distance. Donc oui, non, ça pour le coup, ça contribue au côté justement très serré, très disputé de cette rencontre-là, où justement chaque drive va être important parce que il va être susceptible d'être bonifié par au jeu au pied à la fin du drive.
Je suis assez d'accord, et c'est vrai que ce genre de match, tu sais que le kicker va pas te planter au dernier moment. Enfin, tu te doutes que le kicker va pas te planter au dernier moment, donc
il y a peu de chance. En tout cas, on se rappelle de Justin Tucker qui avait loupé un extra point contre les Saints il y a quelques saisons de ça.
Pas le seul de sa vie qui l'a raté ou un truc comme ça.
Alors, c'est pas impossible. Ouais. Mais oui, non. En tout cas, ils sont pas seulement armés en attaque et en défense pour le coup, mais sur l'équipe spéciale, en effet, c'est assez costaud.
Tout à fait. Ton petit prono maintenant, et ou alors tu veux le donner avec tous tout à l'heure?
J'ai vendu la mèche. Allez. Mais du coup les Ravens quand même, parce que je le disais, c'est sûr que les squads de linebacker, notamment du côté des Chiefs, me posent un peu plus de questions, et on voit que Baltimore a vraiment utilisé tout le monde au niveau du jeu au sol. Il y a même un Gus Edwards qui est sorti du chapeau la semaine dernière. Alain et Raph en parlaient, J.K. Dobbins de portée 48 yards contre Houston.
Bah, dont un de 44, non, c'est pas ça l'histoire.
Oui, dont un de 44, mais voilà, en tout cas, ça bonifie quand même pas
ça
mal.
Ça fait 48.
Voilà, ça fait 48, surtout qu'il avait marqué un touchdown en première semaine. Donc, on bonifie encore une fois, on a beaucoup d'options au niveau du jeu au sol, mais on n'en oublie pas pour autant. Et c'est ce qui permet également d'utiliser un Lamar Jackson de manière un peu moins caricatural au sol, et justement de lui donner cette alternance qui lui permet après de faire mouche dans le domaine aérien. Donc je pense qu'à la longue, j'ai souvent dit que cette défense des Chiefs ne me rassurait pas à 100%, et j'ai peur que contre les Ravens, ce soit un peu rédhibitoire. Donc j'y vais avec Baltimore en l'occurrence sur ce match-là.
Je suis d'accord avec toi, et je me base un peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière, même si c'est pas ce qu'il faut faire dans les pronos, hein, ne faites pas comme ça chez vous. Mais effectivement, les Chiefs sont un peu galérés face à la certes, bonne défense des Chargers, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même un cran au-dessus. Et du coup, les Ravens vont peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre que n'ont pu l'avoir les Chargers. Et je pense que ça devrait leur donner l'avantage, effectivement, sur ce match. Je ne dis pas que ce serait la même histoire en play-off, mais sur ce match-là, en tout cas, ça me semble aller en faveur de Baltimore. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe tout de suite à tout le reste des pronos.
It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're gonna work on three. One, two, three, work.
Grosse semaine de prono pour l'équipe. On a fait presque un sans faute. Alors, vous avez fait presque un sans faute avec Alain, puisque vous êtes à 15 points, Greg et Alain.
Et contrairement à Alain, je ne suis pas du tout déçu de ne pas avoir fait un sans faute. Je remercie les Raiders.
Oui, alors j'allais dire, vous pouvez remercier les Saints, mais toi, je crois que ta religion t'interdit de remercier les Saints. Donc, tu es très content.
Oui, ouais, cœur avec les doigts pour Las Vegas.
Bravo à Las Vegas. 14 points pour Raphaël et moi et 12 points pour Camille. Soit au total Alain et Raphaël à 25, Greg tu es à 24 et Camille et moi sommes à 22 dans le groupe des poursuivants. Tout est encore extrêmement serré bien sûr et la lutte sera acharnée jusqu'au bout. Bien sûr, Camille et moi ne finirons pas dernier, en tout cas on se le souhaite.
Je précise parce que je suis sûr que c'est ce qui va se passer, tu vas donc attendre mes pronostics pour faire les tiens du coup.
Moi, je les ai déjà fait.
D'accord. Non, bah, autant pour moi, j'ai pas vu le.
Non. Oui, d'ailleurs, tu es le seul à ne pas avoir rempli
oui,
la
non,
feuille
c'est
de
vrai,
prono.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Quel malin.
Je ne pourrais plus me cacher. C'est ce qui sera dans ce podcast.
Voilà. Avant de commencer, bravo aux équipes NFL. Après deux semaines, il y a eu 1611 points inscrits et 186 touchdowns marqués, soit deux records dans l'histoire de la ligue après deux semaines de compétition. Il y a du spectacle. On aime ça. Peut-être que les défenses souffrent plus de l'absence de pré-saison que les attaques. On ne sait pas, mais en tout cas, il va falloir rééquilibrer tout ça. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, c'est cette nuit si vous nous écoutez jeudi, sinon c'était hier, Dolphins 0 victoire, 2 défaites chez les Jaguars à 1 victoire, 1 défaite, c'est le derby de la barbe versus la moustache, le derby de la capillosité. Alors Fitzpatrick a déjà fait son match de début de saison absolument en feu, donc maintenant peut-être qu'il peut laisser la place à Tagovailoa. D'autre côté, les Jaguars ont quand même marqué 50 points en deux matchs. Finalement, c'est une affiche assez sympa. Alors, on pourrait se moquer en disant que ce n'est pas deux équipes très fortes, mais il y a peut-être des trucs à faire quand même.
Bah écoute, en tout cas, moi, de ce que je vois sur les deux premiers matchs, et je vais répondre d'emblée au pronostic, Jacksonville me fait quand même une bien meilleure impression.
Ouais,
il y a cette réaction en effet contre Indianapolis, et même à Tennessee, franchement, s'ils gagnent le match, je ne peux pas dire qu'il y ait scandale. Miami, c'est vrai qu'il y a des bonnes initiatives offensives, il y a, je trouve, un groupe qui se met en place. Notamment les cibles avec Magiziki, Azaia Ford, etc. Mais c'est vrai que la défense reste, à mon sens en tout cas, toujours aussi naïve. Un backfield défensif, notamment, dont on attendait beaucoup et qui a l'air quand même de pas mal décevoir sur ses deux premières sorties. Donc face à Jacksonville, où là, pour le coup, Gardner Minshew a l'air également de bien trouver ses cibles, je pense que ça peut faire la différence pour les Jags et permettre à Jacksonville de s'imposer.
Ouais, moi aussi. Donc, team moustache pour nous deux dans le match de ce soir. Dimanche à 19h, Texans à 0 victoire et 2 défaites. Chez les Steelers à 2 victoires et 0 défaites. Bon, on est d'accord que la défense des Steelers risque d'être un peu trop gros pour Deshaun Watson. Ça fait quand même un gros début de saison. Hein. Ravens, Chiefs et Steelers, ça ira mieux pour les Texans après. Vikings, Jaguars, Titans dans les 3 semaines suivantes. C'est plus à leur portée, mais c'est pas encore évident. Petite stat sympa, 221e match en carrière de Big Ben, c'est le record de la franchise des Steelers, puisque le précédent c'était Mike Webster avec 220 matchs. Voilà. Du coup, Greg, ton avis sur ce match ?
Bah écoute, pour le coup, je ne sais pas s'il faut vraiment se fier à l'affiche des deux équipes. On a une formation de Houston qui, tu l'as dit, a affronté quand même deux gros morceaux avec Baltimore et Kansas City. Maintenant, je n'ai pas forcément été émerveillé par ce que j'ai vu des Steelers sur les deux premières semaines.
Des deux côtés du ballon ou seulement
Il y a une bonne défense, ça on le découvre pas. Voilà. Après, c'est vrai que je trouve que pour une équipe qui a joué les Giants et les Broncos, en plus des Broncos qui ont commencé quand même à tirer la patte avec beaucoup de blessures, j'ai pas senti une assurance jusqu'au bout de la rencontre. Alors on me dira, il y a un premier match qui est à l'extérieur, il y a un deuxième où ils ont peut-être joué un peu trop la sécurité en se disant bah, justement le QB titulaire est sorti. Mais justement, dans une équipe qui est habituée à dégager un peu plus de sérénité, avec le retour en tout cas d'un quarterback vétéran qui est censé donner cette impression-là, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc après, bien entendu, il y a un TJ Watt qui est toujours énorme en défense et qui, je pense, va de nouveau faire le boulot sur ce match-là. Confrontation.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Terwatt d'ailleurs au passage.
C'est vrai.
Donc il y aura un cœur pour les deux hommes de briller. Mais j'attends d'être rassuré un peu plus par cette équipe des Steelers. Après, c'est sûr que bon, la confiance est quand même du côté de la Pennsylvanie. Donc j'irai en l'occurrence vers les Steelers sur ce match-là.
D'ailleurs, il y a le troisième frère Watt, en l'occurrence l'autre qui est aussi du côté des Steelers.
Oui,
non
Derek, ouais.
Derek qui est fullback et qui du coup pourrait bien rentrer dans la tête de son frère. Ça serait rigolo. Je prends les Steelers aussi. Ils ont l'air quand même un petit peu mieux armés. Bengals, 0 victoire, 2 défaites chez les Eagles, 0 victoire et 2 défaites. Est-ce que c'est enfin la bonne pour les Eagles? Il serait temps, Grégory. En tout cas, une des deux équipes ne sera plus Fanny, à moitié un match nul, mais bon. Philadelphie, quand même une stat qui n'est pas très glorieuse pour eux, moins 5 en termes de ratio de turnover. C'est le pire de la ligue.
Ouais, alors je pense que ça va être un match où il va y avoir beaucoup de sacs. Les Eagles se sont un peu repris sur un match face aux Rams, hein, ce qui n'était pas compliqué vu comment ils s'étaient écroulés.
On partait du 8,
Washington.
Hein, donc...
Mais c'est sûr que là, les deux lignes offensives ne rassurent pas des masses. Cincinnati, on n'a pas vu des mauvaises choses. Hein. Ils ne sont pas passés loin quand même à Cleveland, malgré quand même un play calling que j'ai trouvé un peu farfelu, très unidimensionnel.
C'est pas trop loin en semaine 1 non plus, si je me souviens plus.
Oui, avec le field goal loupé par Bullock. Ouais. Donc c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup d'opportunités manquées par Cincinnati. Après, Philadelphie, ça reste une équipe qui joue à l'orgueil. Je pense que ce match-là entre deux équipes à 0-2, je pense qu'ils auront un cœur quand même d'aller le chercher malgré l'énième blessure, il me semble, du receveur Jalen Rigor, leur rookie.
Ouais.
Ça va commencer à faire un petit peu beaucoup quand même à la longue, mais. Je pense qu'ils ont quand même les armes. Va quand même falloir gommer ces erreurs incessantes en attaque, avec notamment Miles Sanders qui a commis un fumble, il me semble, contre Los Angeles. Donc faut enfin réussir à bonifier offensivement et sur 4 cartons les initiatives offensives. Mais j'y vais avec les Eagles, mais je serais pas étonné d'un upset.
Ouais, attention, je suis d'accord, je prends Philadelphie aussi, mais il va falloir être sérieux. 49ers, une victoire, une défaite chez les Giants, à 0 victoire et 2 défaites. Alors, normalement, sur le papier, ça devrait passer pour San Francisco, malgré la pluie de blessés qui est tombée sur les 49ers la semaine dernière. Nick Mullens en quarterback, est-ce que ça suffit, Greg?
Ça peut suffire.
Ça va devoir, de toute façon.
Je vais me faire des amis en disant ce genre de phrase, mais ça peut suffire vu l'équipe qui est en face, parce que c'est l'avantage pour les Niners de jouer les deux équipes de New York assez rapidement, c'est que vu ce qu'on peut attendre des deux franchises cette année, et encore plus avec notamment la blessure de Saquon Barkley, il y a Sterling Shepard aussi, qui a priori est sur la liste des blessés désormais, ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui avait également des gros points d'interrogation sur la O-line. Raph le disait, c'est sûr que ça va permettre de jauger un petit peu Daniel Jones.
Voilà.
Mais bon, on a quand même une équipe en face, je pense, qui même avec un Nick Mullens, qui même avec des remplaçants sur la ligne défensive, qui même avec un corps de receveur un peu diminué, peut quand même, je pense, trouver un minimum de solutions. Ça fera peut-être pas 31-13 comme ils ont fait chez les Jets, Mais il y a peut-être moyen de gagner d'une courte tête. Je vois quand même les Niners remporter cette rencontre.
Finalement, c'est presque eux qui jouent à la maison, puisque ils sont dans le même stade deux fois de suite. Ils sont bien, ils se sont installés. Hein, c'est pas mal. Les 49ers pour moi également. Riders, une victoire, une défaite. Chez les Patriots, une victoire et une défaite. Donc les Riders, on l'a dit, qui sortent d'une belle victoire. Mais est-ce qu'on a plus confiance en Cam Newton et Bill Belichick ou en Derek Carr et John Gruden?
La question piège. Bah, et là, ouais, tu veux, hein, que je dise John Gruden, on dit ouais, Gruden est meilleur que Belichick.
Allez. et là, on fait un extrait audio qu'on met sur Twitter en avant, tweet clash buzz, bien sûr.
Non. Alors, moi, c'est toujours la même chose. C'est sûr que la prestation défensive de Las Vegas pour freiner un minimum de Drew Brees, ou en tout cas le jeu aérien des Saints peut inciter à la confiance. J'ai quand même toujours quelques réserves. Sur le boulot de Paul Gunter, que je trouve un peu irrégulier dans ses appels de jeu défensifs. Et j'ai peur que contre New England, même si on l'a vu lors du dernier jeu à Seattle, ça a peut-être tendance parfois à être un peu caricatural, cette volonté de faire jouer absolument Cam Newton en force plein centre, hein, et à oublier un petit peu le reste du backfield, hein. Je sais plus si c'était lui le meilleur coureur contre Miami, mais va pas falloir que ce soit lui trop souvent qui soit le leader en termes de yards à la course, même si pour le coup il a performé à la passe contre les Seahawks. Mais j'aurais quand même plus tendance à me fier à l'attaque de New England sur ce match-là, et je pense que la défense des Pats largement capable, surtout avec des blessures, il me semble, sur la O-line des Raiders, de freiner efficacement Derek Carr et Josh Jacobs.
Je suis d'accord avec toi, d'autant que ça se voit, c'est pas le même. La même intensité physique, je pense, en attaque du côté des Patriots que du côté des Saints, même si, bien sûr, Alvin Kamara pèse énormément. Mais je vois plus de manières de faire mal aux Raiders, et à commencer par Newton, là où Breeze, malheureusement, est très unidimensionnel. Enfin, malheureusement, c'est sa force, hein, mais voilà, je pense qu'il y a plus de manières de s'en sortir.
Oui, il y aura plus de difficultés
sortir,
à prolonger, voilà, les jeux, oui.
De toute façon. Donc Patriots pour nous 2, Titans 2 victoires, 0 défaites. Chez les Vikings, à 0 victoire et 2 défaites. Là, c'est dur quand même de donner Minnesota gagnant sur ce match, tellement ils sont décevants depuis le début de la saison. Et surtout que moi, je vois dans ce match-là le jeu au sol, qui est peut-être un des points forts des Vikings, enfin des Vikings, qui est censé être un des points forts des Vikings en attaque. Je pense qu'il va se faire écraser par le jeu au sol des Titans.
En tout cas, il y a peut-être moyen de le freiner. Après, je pense que Dalvin Cook, c'est peut-être la rare bonne surprise, en tout cas, entre guillemets, de ce début de saison offensivement. Moi, ce qui m'inquiète encore plus du côté de Minnesota, c'est qu'on a une défense qui rassure pas des masses. Ils ont quand même pris plus de 100 yards de la part du rookie Jonathan Taylor du côté d'Indianapolis. Ils se retrouvent contre Derrick Henry en perdant plus Anthony Barr pour la saison. Je pense que ça va commencer quand même à faire long pour réussir à stopper efficacement l'attaque de Tennessee, qui, même si il reste sur une prestation contre une défense des Jaguars qui reste encore un peu expérimentale, vient quand même de marquer 33 points. Donc, et avec un Tannehill qui est très très propre depuis le début de la saison, j'aurais tendance à aller vers Tennessee sur ce match-là. Le sursaut d'orgueil n'est pas impossible. Mais en tout cas, le momentum, la vibe est clairement pas du côté de Minneapolis.
Non, clairement, et je vais prendre les Titans là-dessus aussi. La Washington Football Team a une victoire et une défaite. Chez les Cleveland Browns, a une victoire et une défaite. Est-ce que c'est si évident que les Browns sont favoris de ce match, hein? Moi, je me dis que, tu vois, ils battent les Bengals la semaine dernière. C'est pas l'équipe la plus forte de la NFL, ce n'est pas la panacée, pour reprendre une expression qui m'est chère. Peut-être Washington peut aller un peu les embêter, non?
Bah, ça dépend. Défensivement, ils pourront les embêter, parce qu'il y a un peu plus de mal à faire Cincinnati. Offensivement, leur ligne offensive me fait aussi peur que celle des Bengals. Donc, c'est là-dessus. Cleveland n'a pas que des éléments rassurants en défense, ça, on le découvre pas. Mais en tout cas, la ligne défensive, je trouve, a rendu une copie assez intéressante. Encore une fois, c'était Cincinnati en face. Mais il y a quand même moyen, vu les noms et le potentiel qu'il y a sur le papier, que Cleveland aille mettre suffisamment de pression sur Dwayne Haskins, qui reste malgré tout assez seul, hein. On l'a dit, ouais. Il a profité de drive très bien démarré contre Philadelphie en deuxième mi-temps, mais quand t'as un running back rookie comme principal aide au niveau du backfield et Terry McLaurin comme seule véritable cible fiable, ça devient compliqué. Difficile. De vraiment réussir à mettre à l'amende des équipes qui restent en milieu du panier. Donc cette équipe de Cleveland, même si on ne sait pas trop ce qu'ils valent, Ils ont pris cher à Baltimore, mais ils ont battu Cincinnati. Donc, bon, tu sais pas forcément là où tu les situes. Et je les pense quand même au-dessus de Washington sur ce match-là.
Moi aussi, je vais prendre les Browns également. Rams, 2 victoires, 0 défaites. Chez les Bills, à 2 victoires et 0 défaites. Alors, j'ai un peu trollé en préparant l'émission en demandant si on pouvait pas prendre ça comme affiche de la semaine. Mais en fait, c'est quand même un des seuls matchs où il y a 2 équipes à 2 victoires et 0 défaites. Et surtout, il y a pas mal de choses intéressantes. Je vais commencer par une question tout à fait tranchante. Grégory, qui est le meilleur quarterback sur le terrain?
Oh, je savais que tu allais me poser cette question. En tout cas, Goff et Allen, depuis le début de la saison, c'est pas les quarterbacks dont on parle le plus, forcément. Encore que, bon, Josh Allen, forcément, on suit un peu plus son évolution. Mais ça reste 2 quarterbacks qui sont mis dans de très bonnes dispositions. Ils ont pas affronté des foudres de guerre, hein, on l'a dit. C'est sûr que, bon, Dallas et Philadelphie pour les Rams, ça a beaucoup, je trouve, de points faibles, en tout cas identifiés au cours des 2 premières semaines. Et bon, Buffalo a battu les Jets et les Dolphins, qui, à mon sens, sont pas partis pour se tirer la bourre pour les playoffs.
Non.
Donc, voilà, c'est à relativiser aussi. Mais c'est sûr que de ce qu'on voit, on attend forcément beaucoup d'un Josh Allen qui reste quand même sur une prestation à plus de 400 yards à Miami.
Ouais, et 4 touchdowns.
Et surtout qui arrive à trouver une très, très bonne collaboration très vite avec Stephon Diggs. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence. Surtout qu'il va y avoir client en face de Diggs sur ce match-là avec Jalen Ramsey. Et voilà, le vainqueur de ce match-up, je vais pas être très original, le vainqueur de ce match-up va peut-être déterminer le résultat final. Après, autre point d'interrogation du côté de Buffalo, c'est cette attaque au sol, qui a l'air d'être clairement moins productive que l'année passée. Et à l'inverse, une équipe des Rams qui se faisait marcher dessus au sol l'année passée et qui a l'air de contrôler un peu plus ça, même si les stats de Miles Sanders sont pas déshonorantes le week-end passé. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça va être un facteur peut-être à surveiller. J'y vais avec Buffalo parce que voilà, c'est l'équipe qui reçoit et ça va jouer, je pense, à très peu de choses. Pas négliger le facteur Aaron Donald également face à cette ligne intérieure qui, je le rappelle, a été fragilisée pendant l'intersaison. Mais j'y vais quand même sur les Bills.
Eh ben, je pensais qu'on aurait un vote différent, mais non. Je vais prendre les Bills également pour rester cohérent avec mon power ranking d'avant-saison où j'ai voulu enterrer les Rams. Et bon, ils sont un peu meilleurs que ce que je pensais, mais je vais continuer dans ma logique du moment et prendre les Bills aussi. Les Bears à 2 victoires et 0 défaites et les Falcons à 0 victoire et 2 défaites. Alors non, je ne me suis pas trompé sur les fiches. Ce sont bien les Bears à 2-0 et les Falcons à 0-2. Pour continuer, donc je te demandais tout à l'heure, est-ce que si Atlanta perd Queen saute, tu avais l'air de dire que non, mais bon, quand même quoi. Les Bears.
Oui, mais ça dépend. Bah après les Bears, enfin bon, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, notamment offensivement, mais ça fallait s'y attendre aussi, hein. Avec Trubisky, on va pas découvrir non plus que c'est pas forcément très excitant à voir jouer. Ce qui est un peu plus problématique en attaque, c'est l'utilisation, enfin en tout cas c'est le rendement d'Allen Robinson et d'Anthony Miller le week-end passé, à tel point que c'est Darnell Mooney qui est devenu la star au poste de receveur, donc ça en dit long un petit peu, et c'est ce qui peut permettre à Atlanta, au sortir de 2 attaques aériennes très féroces, de peut-être éventuellement réussir à freiner l'hémorragie. Après voilà, il y a un bon David Montgomery en attaque et il y a une défense, je pense, qui est capable de contrecarrer l'attaque d'Atlanta, surtout que Julio Jones est blessé et toujours incertain. Atlanta a une vraie chance de gagner, mais superstition, donc les Bears.
Bien sûr. Bon, alors enfin, on a un vote différent, mais je vais quand même prendre les Falcons. S'ils doivent gagner ce match, je pense pas qu'ils puissent se permettre de perdre s'ils veulent continuer la saison.
Je ne pense pas non plus.
Dimanche à 22h05, voilà, donc ça c'était la série des matchs de 19h. À 22h05, les Panthers à 0 victoire et 2 défaites vont chez les Chargers à 1 victoire et 1 défaite. Alléluia, joie dans nos cœurs et dans nos écrans. Justin Herbert sera titulaire. Anthony Lynn l'a confirmé. Alors, il
attention,
a pas dit
s'il se fait pas percer le poumon.
Alors voilà, et surtout, il a pas dit c'est le nouveau titulaire. Il a dit pour le prochain match, c'est lui parce que Tyrod Taylor est pas là. S'il te plaît, Anthony, vu que tu nous écoutes, arrête de prendre des substances qui sont de toute façon illicites et mauvaises pour toi et réalise qu'il faut laisser Justin Herbert. Donc ça va. De toute façon, c'est l'occasion pour lui de prouver que le match face aux Chiefs n'était pas qu'un feu de paille et de voilà montrer qu'il peut peut-être devenir le titulaire attitré. En face, de toute façon, il n'y a pas de Christian McCaffrey pour les Panthers. Donc, moi, la question la semaine dernière à Raphaël, c'était est-ce que McCaffrey suffit sur ce match? Il a dit non, ça c'est pour vérifier, ils ont perdu. Là, il n'y a pas de Christian McCaffrey, donc pas de victoire.
Après, McCaffrey, il fait 60 yards le week-end dernier à Tampa aussi. Hein, donc, ce n'était pas la menace principale du côté de Carolina. pour le coup. Mais c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup depuis le début de la saison sur le rendement offensif de Carolina, hein, forcément, parce que moi, le premier, j'attends de voir un petit peu ce que peut apporter Joe Brady et ce qu'il peut faire de Bridgewater, notamment. Mais c'est vrai que c'est peut-être en défense également, il faut voir, parce que il y a, à mon sens, toujours cette fragilité sur le run-stop. On rappelle que les Panthers, contrairement au début de l'ère Rivera, c'était une des équipes qui concédait plus de touchdowns contre la course. Là, ils prennent pas quand même un super départ à ce niveau-là, même si Ronald Jones fait pas des stats énormes, mais Leonard Fournette, en tout cas, les a mis beaucoup en difficulté.
Et là, les Chargers, ils sortent d'un gros match au sol, en plus. Donc,
voilà. Donc, déjà, c'est un gros problème pour eux défensivement. Et puis, il y a une difficulté aussi à aller chercher le quarterback. Zéro sac depuis le début de la saison. Il me semble que c'est la seule équipe, qui a ce chiffre-là. Et encore une fois, contre un Justin Herbert, si c'est bien lui le titulaire, qui a démontré quand même une certaine facilité à lancer le ballon rapidement, ça peut en effet être préjudiciable pour Carolina, et c'est ce qui m'incite en effet, avec peut-être une défense capable de vraiment mettre sous pression Bridgewater sur toute la rencontre, j'y vais avec les Chargers sur cette rencontre-là.
Moi aussi. Le match suivant est toujours à 22h05. C'est les Jets à 0 victoire et 2 défaites. Chez les Colts, à 1 victoire et 1 défaite. Bon, peut-être pas besoin de trop s'éterniser sur celui-là. Ça, on se dirige vers une semaine un peu compliquée encore pour les Jets. Et Philippe Rivers, bien sûr, va pouvoir briller de son talent sur cette rencontre. Tu sais pas?
Moi, cette équipe d'Indianapolis, je sais pas trop comment aller prendre cette saison.
Heureusement. Même face aux Jets? J'embrasse mes amis fans des Jets.
Je vais dire les Colts. Je suis pas fou non plus. Je vais pas perdre des points gratuitement, mais c'est le genre de match typiquement piège où on va enterrer les Jets et où il va y avoir un sursaut d'orgueil ou un truc comme ça. Il y a quand même eu une bonne réponse de DeForest Buckner qui avait un peu déçu en première semaine. Donc si déjà il arrive à apporter ce qui faisait sa force à San Francisco, ce sera une très bonne chose pour Indianapolis, qui s'est renforcé en défense et qui, je pense, a moyen de mettre en difficulté le peu de force offensive des Jets. Mais attention, mais j'y vais quand même avec Indianapolis.
Dimanche à 22h25, oui, je prends les Colts aussi, bien sûr. Dimanche à 22h25, les Cowboys à 1 victoire et 1 défaite. Chez les Seahawks à 2 victoires et 0 défaite. Seattle qui a l'air d'être parti sur une saison incroyable. Est-ce que Dallas peut mettre fin au rêve? Spoiler, non.
Oui, bah, en tout cas, défensivement, ils font rien pour assurer que ce sera le cas. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, notamment sur le front seven, c'est un peu compliqué à se mettre en place. Mais oui, c'est sûr que face à Russell Wilson, même face à un Chris Carson qui quand même un peu mieux repris face à New England de mémoire, j'ai plus les stats, mais en tout cas contre Atlanta, il avait fait un match assez inexistant au sol, en tout cas parce qu'il avait marqué la réception. Donc c'est sûr qu'il y a moyen que Seattle offensivement pose de gros problèmes à Dallas, surtout que on en parlait mardi, la ligne a l'air un peu plus solide. Et si Dallas a des problèmes sur les tranchées, que ce soit en attaque ou en défense, avec notamment les nombreuses blessures sur la O-line, ça peut être un peu compliqué. Donc, j'y vais avec Seattle sur ce match-là. Je doute qu'on fasse des cadeaux toutes les semaines sur l'équipe spéciale aux Cowboys.
C'est possible. Juste, tu voulais la stat, je te la donne. 108 yards gagnés par Chris Carson, 72 à la course et 36 à la réception.
Voilà, donc c'était quand même un peu mieux à la réception. Contre Atlanta.
Oui. Seahawks pour nous deux. Buccaneers, une victoire, une défaite chez les Broncos à 0 victoire et 2 défaites. Est-ce qu'on va voir Blake Bortles? Ce serait rigolo, non?
Je sais pas. Après, Jeff Driscoll n'a pas été ridicule. Encore une fois, dans un match où il arrive un peu au débotté face à une des plus grosses défenses de la Ligue. Je ne l'ai pas trouvé déshonorant, donc je pense que Bortles, c'est peut-être plus pour faire le nombre pour l'instant.
En fait, ma question, c'était surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose qu'on voit Driscoll ou Bortles?
C'est pas mon idée. Non. Après, je continue de penser que le jeu contre la passe de Tampa m'interroge toujours. Il y a quand même 360 yards de Bridgewater le week-end dernier. Le week-end d'avant, il y avait Michael Thomas, mais bon, contre les Saints, ils avaient pris quand même un wagon de yards aussi. Je demande à voir.
Plus d'arguments attendent pas sur ce match.
Il va leur manquer Cortland Sutton aussi. Je pense que ça fait vraiment beaucoup en attaque. J'y vais avec Tampa. Je vais pas être original, mais je te rejoins. Je suis pas sûr que ce soit le seul changement de quarterback ou, enfin, quel que soit le nom qui soit là, qui pose vraiment problème au final.
Des noms qu'ils ont à leur disposition, ça ne changera pas grand chose. Lions, 0 victoire, 2 défaites chez les Cardinals à 2 victoires et 0 défaites. Bon, bah, du coup, je voulais aussi te poser la question, mais on a répondu tout à l'heure. Est-ce que c'est la dernière chance de Patricia? Bon, a priori pas. pas, mais ça semble quand même pas gagner sur ce match-là. Les Cardinals font une forte impression depuis le début de la saison et les Lions ont l'air de s'écrouler au fur et à mesure de toutes les rencontres. Je sais pas s'ils vont s'écrouler cette fois-ci aussi, mais ils ont pas forcément besoin de s'écrouler. Je pense qu'ils vont juste pas partir.
Faut voir. Après, ce qui est intéressant du côté d'Arizona, c'est la ligne offensive qui a quand même plutôt bien tenu, je trouve, contre San Francisco et Washington. Bon, niveau ligne défensive, je pense que dans la ligue, il y en a pas 15 meilleurs que ces deux-là, je pense, sur l'ensemble de la saison, malgré les récentes blessures. Mais bon, à l'époque, les Niners avaient leur ligne défensive intégrale. Mais oui, donc du coup, ça peut encore plus poser problème à la défense de Détroit. Ça peut semer le doute, en effet, et face à une défense qui est capable, qui est un peu meilleure, notamment contre la couverture. Je pense qu'un T.D. Hockenson, qui a été le meilleur receveur de son équipe en termes de yards le week-end passé, peut sans doute être un peu mieux contenu. Et ça peut, en effet, faciliter la victoire des Cardinals. Voilà, avec un backfield, encore une fois, qui, je pense, avoir toutes les peines du monde à marquer DeAndre Hopkins. Donc,
Et Larry Fitzgerald, n'oublions pas l'éternel. Les Cardinals pour moi. Et lundi, donc le Sunday Night Football, lundi à 2h20 du matin, Packers, 2 victoires, 0 défaites chez les Saints, à 1 victoire et 1 défaite. On aurait aussi pu prendre cette affiche de la semaine. On a vu des Saints en difficulté lundi dernier. Moi, j'ai du mal à les donner gagnants face à cette équipe des Packers historique en termes d'attaque.
Ouais, c'est un match vraiment piège. Je t'aurais dit facilement les Saints vainqueurs il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que la prestation d'ensemble contre Las Vegas...
Ouais, ça fait peur. Enfin, peur, c'est pas rassurant.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a mieux, en tout cas, pour se mettre dans les meilleures dispositions quand tu t'apprêtes à jouer un match en prime time contre une équipe de Green Bay qui, malgré tout, et malgré l'opposition un peu plus relative, puisqu'en l'occurrence, Minnesota et Détroit, bon, ne rassurent pas énormément en ce début d'année. Bon, c'est une équipe quand même qui a l'air d'être en plein de confiance, avec un Aaron Rodgers qui pour l'instant est très propre, avec un Aaron Jones qui est un des meilleurs running back, en tout cas un des plus décisifs
le meilleur, je crois, de la saison. J'ai vu les stats, mais c'est le meilleur ou le deuxième meilleur.
Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est clairement l'un des plus, si ce n'est le plus polyvalent depuis le début de la saison. Donc très clairement, c'est vrai que ça va être un joueur à surveiller de très près. Le backfield défensif des Saints qui me rassure toujours pas, le nombre de pénalités qui reste quand même assez élevé également.
Mais ils le feront pas à chaque match, ça.
En tout cas, il faut espérer. Et on voit que du côté de Green Bay, il y avait les deux Smiths notamment qui étaient capables d'apporter un peu de pression. Il y a Rashan Gary qui reste sur 1,5 sack contre Détroit. Donc, si en plus les Packers sont capables d'apporter un peu plus de pression et de mettre en difficulté une O-line qui généralement est le point fort des Saints ces dernières années, je demande à voir, mais très franchement, j'aurais tendance à aller vers les Packers sur ce match-là. En tout cas, il y a plus d'indices. La prestation de Brice sans Michael Thomas pose forcément question. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir. Mais en tout cas, il y a plus de signaux qui laissent optimiste du côté de Green Bay que du côté de Nouvelle-Orléans ce week-end.
Je te confirme qu'Aaron Jones est le coureur le plus prolifique au sol. En tout cas, il a 234 yards cette année. C'est le premier de la Ligue à cet effet. Et donc, le dernier match, on l'a dit, c'est le Monday Night Football entre les Chiefs à 2 victoires, 0 défaites et les Ravens à 2 victoires et 0 défaites. C'était notre affiche de la semaine et on a tous les deux pris les Ravens. Oui, c'est ça. Voilà pour tous les pronos de cette semaine 3. On passe à vos questions après le jingle. J'adore ce générique. Greg, est-ce que tu es prêt pour les questions ?
Ben oui, vas-y, je t'écoute.
Alors, on y va. On commence par une question de Ben LBA. Bravo, hello à toute la team. Bravo encore pour votre travail. Alors, j'ai le sentiment que l'on voit toujours les mêmes équipes se risquer à des trick plays, fake punt ou similaires, genre Seahawks, Rams, Saints, et ce depuis quelques années déjà. Est-ce que c'est dans l'ADN de la franchise ou simplement des choix du coaching staff qui, s'il change d'équipe, amène son playbook avec lui ?
Après, j'ai pas creusé tout l'historique des différentes époques des franchises, mais c'est sûr, voilà, généralement c'est des coachs qui sont quand même assez
joueurs.
Oui, voilà, chercher un autre terme. Mais t'as raison, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins imagé. Mais oui, en tout cas, oui, c'est sûr, des coachs très entreprenants et qui n'hésitent pas justement, en sachant que de toute façon, voilà, un match de foot américain, ça reste avant tout basé sur le momentum, donc voilà, en fonction des moments, à bien utiliser des trick plays. Et c'est sûr que voilà, on prend les exemples, mais bon, les Saints, on sait que Taysom Hill est quasiment là que pour ça. On sait que les Seahawks également sont assez coutumiers du fait. Donc oui, en effet, c'est sûr que c'est plus lié à la mentalité des coachs Après, historiquement, est-ce qu'il y a des équipes qui étaient vraiment spécialisées dans les trick plays? J'ai pas dans cette idée-là, mais
c'est vrai que les Rams, j'ai l'impression qu'ils font souvent des trucs comme ça aussi.
Bah, ils ont un bon coach de d'équipe spéciale. Ouais. Je sais plus si c'est John ou Tim Fassel. Mais en tout cas, oui, non, c'est un coach qui n'hésite pas à prendre des risques. Ça avait été précieux, notamment il y a 2 ans, dans l'optique du Super Bowl. C'est un peu moins fréquent, je trouve. Mais en tout cas, non, c'est une équipe qui n'hésite pas à oser également quand il faut le faire.
Zaburik qui nous dit hello la team, 9 TD au sol pour les quarterbacks cette semaine. Est-ce que vous savez à combien est le record? Alors Zaburik, je suis désolé, j'ai cherché avant le podcast et je n'ai pas trouvé de moyen de trouver, alors déjà de vérifier cette stat et surtout de trouver. Donc je m'en remets à la Bible de la NFL.
Oula.
Greg, mais non, mais je m'excuse pas. En fait, mais j'ai gardé la question exprès parce que je suis curieux de savoir où est-ce que vous avez eu l'info. J'imagine qu'on l'a trouvé sur les réseaux sociaux. Et surtout, j'aimerais bien savoir effectivement parce que ça, la réponse m'intéresse. Donc voilà, j'en fais appel à la communauté Touchdown Actu si jamais vous avez la réponse.
Après, je pense que ça n'a pas dû arriver souvent parce que c'est sûr qu'on a quand même cette mouvance de quarterback mobile, en tout cas de plus en plus athlétique, qui arrive année après année. Même si naguère, il y avait quand même des quarterbacks capables de prolonger les jeux au sol, même en position
autant de jadis.
C'est ça. J'ai peut-être pas dans l'idée qu'il marquait autant au sol.
Question de All for Saints. Salut à tous. Après ces 2 semaines, quelles attaques vous semblent inarrêtables et à l'inverse, quelles escouades offensives auraient bien besoin du tranchant du docteur des Chargers pour percer les défenses adverses? Très bonne blague. C'est bien sûr pour ça que j'ai gardé.
Reste un petit moment ça.
Mais tant mieux. Tout ça n'est que du positif.
On ne sait pas s'il arrive de Washington à tout hasard, ce médecin.
Ah, je ne sais pas. Donc alors, quelle attaque te semble inarrêtable et quelle attaque?
On en parlait. Pour l'instant, Green Bay, ça a l'air pas mal. Hein. Faut voir contre une plus grosse écurie, mais pour l'instant, c'est ceux qui, a priori, font la plus grosse impression offensive.
Paradoxalement, l'attaque d'Atlanta.
Oui aussi. Bon, après, sur ce week-end-là, c'est sûr qu'elle a beaucoup profité des grosses erreurs et des pertes de balles de Dallas. Elle l'était très clairement contre Seattle, mais Seattle aussi, hein, d'ailleurs, je ne les ai pas cités. Mais,
c'est vrai.
Bon. Ouais. Quand même, Atlanta, je veux bien qu'ils les ouvrent un peu dans le domaine aérien, mais bon, New England, ce n'est pas les premiers venus non plus. Donc,
c'est sûr.
Oui, c'est pas mal aussi. Après, les plus mauvaises attaques.
Est-ce qu'on peut déjà mettre les Vikings dedans? Ce serait dur, mais.
Ah, c'était moche. Parce qu'ils ont montré à Indianapolis, c'était très moche.
Ouais, c'est ça. Les Chargers, en semaine 1, c'était très moche aussi.
Si je veux être original, je te dis les Jets.
Allez, on y va avec les Jets. Alors, juste un doigt qui nous dit « Salut la team, petit dilemme. Est-ce que vous préférez… » Alors là, il y en a plusieurs. « Est-ce que vous préférez avoir Jeff Fisher et Russell Wilson ou Sean McVay et Jared Goff ?» Oh.
Je sais pas ce que veut dire ton mais
bah c'est difficile quand même. Bah non, mais ouais, McVay et Goff quand même. Bah non, mais il y a Wilson. Ah, Wilson, il fait tout.
Bon, après, après, très franchement, Jeff Fisher, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan du personnage, loin de là. Maintenant, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin de carrière où il faisait que des fiches à 7-9. Bon, il a juste emmené les Titans au Super Bowl. Il a quand même fait des saisons assez honorables. Je pense à l'année, je crois que c'est 2008 ou 2009 où Tennessee fait une saison à 13-3. Enfin, il n'y a pas eu que des saisons horribles de la part de Fisher.
Ça va être un bullshit.
Oui, non, mais en fait, si tu prends cette combinaison-là, Fisher-Wilson, je peux prendre. Hein. Fisher, c'est un spécialiste défensif. Il a souvent eu des grosses défenses. C'est lui qui a été épaulé notamment par Jim Schwartz. C'est lui qui a couvé, chercher le bon terme, Jim Schwartz notamment. Donc en défense, je pense qu'il y connaît quelques petites choses. Avec un joueur comme Russell Wilson, pourquoi pas, hein, mais.
Alors, du coup, je te refais, mais les dilemmes, c'était Jeff Fisher et Russell Wilson ou Sean McVay et Jared Goff. Ouais. Adam Gaze et Russell Wilson ou Kyle Shanahan et Garoppolo.
Ah là, je prends Shanahan et Garoppolo, par contre.
Matt Patricia et Russell Wilson et Mac McCarthy et Dak Prescott. À chaque fois, je pense que, en fait, Russell Wilson, c'est pas grave parce que de toute façon, il se débrouille, je pense.
C'est qui le troisième?
Matt Patricia et Wilson ou Mac McCarthy et Dak Prescott.
Franchement, je prends McCarthy et Prescott en vrai. Ça va faire plaisir à Alain en plus.
Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est Prescott. Le faux Jared Goff. Pas du tout Jared Goff, le faux Carson Wentz. Question de Géant Bleu. Bonjour la team. Suite à la pluie de blessures constatées ces jours-ci, peut-on considérer que le foot US est le sport qui peut donner le plus de chance à certains joueurs mis de côté sans contrat pour retrouver une équipe?
Écoute, en tout cas, on s'inquiétait en début de saison en disant que le fait qu'il n'y ait pas de pré-saison et tout, ça allait vraiment être très préjudiciable pour ceux qui avaient fait les camps d'entraînement et qui du coup avaient forcément beaucoup moins, si ce n'est pas de chance du tout, de pouvoir se montrer. Bon, bah, on va dire que là, pour le coup, le malheur des uns fait cette fois-ci le bonheur des autres et qu'on pourra tester un peu plus d'options avec ces fameux joueurs de practice squad qui sont protégés, qui peuvent être promus un petit peu plus tôt que prévu et dont on peut voir de quel bois ils se chauffent plus rapidement.
Il disait surtout, est-ce que ces joueurs donc qui arrivent peuvent être bien meilleurs que les titulaires du poste, prendre la place du titulaire même si une grande star payait des millions parce que le mec arrive et s'adapte bien. Précision, est exempté bien sûr Kaepernick, car nous savons tous qu'il y a un excellent niveau chez les 32 quarterbacks de la Ligue. Voilà, c'était surtout pour la petite pique. Etienne Munoz qui nous dit « Salut l'équipe, est-ce qu'on pourrait faire une cagnotte litchi pour acheter un quarterback aux Vikings ?» Alors, je ne sais pas combien ça coûterait, mais est-ce que c'est vraiment le problème Kirk Cousins ? Il y a plusieurs questions, je ne les ai pas toutes prises, mais il y avait plusieurs questions qui revenaient sur le faible niveau des Vikings.
Ouais, bah je t'avoue que même moi, enfin après on l'a dit en construction défensive, ok, mais ce qu'on avait en attaque et malheureusement ça me fait pas changer d'avis sur ce que je dis sur Cousins depuis des semaines et des semaines, c'est que voilà il y a une difficulté permanente à installer du rythme et bon c'est assez prégnant sur le match à Indianapolis et en règle générale depuis un petit moment maintenant et en plus le fait justement, je pense que ce qui est encore plus paradoxal c'est que le fait de perdre Stephon Diggs qui était peut-être le joueur qui lui permettait d'être un peu plus intéressant sur le jeu intermédiaire, bah, voilà, ça le rend encore plus dimensionnel qu'il ne l'était avant, à mon sens en tout cas. Donc voilà, Thielen ne démérite pas spécialement. Justin Jefferson, je crois, est le meilleur receveur de son équipe le week-end dernier. Mais ça reste relativement léger, avec une ligne offensive qui ces dernières années, n'a jamais été extraordinaire, malgré peut-être une ou deux individualités qui sortent du lot. Je pense que des joueurs comme O'Neill ou comme Bradbury sont pas horribles depuis ce début de saison. Mais ouais, si tu prends globalement, c'est bien trop faible, quoi. Et c'est tant que tu n'arrives pas à installer vraiment un momentum, un certain rythme offensif, bah, c'est sûr que tu retourneras sur le banc de touche assez souvent. Hein.
Question de Setic. Peut-on voir un grand chelem de la NFC West sur la NFC Est dans leur confrontation directe? Je sais que c'est précipité, mais est-il possible mathématiquement de voir les quatre équipes de la NFC West se qualifier? Eh bien, bonne nouvelle, Setic. Oui, cette année, mathématiquement, il est possible de voir les quatre équipes d'une même division se qualifier, puisque maintenant, il y aura sept équipes qualifiées par conférence, et donc il pourrait y avoir quatre gagnants de division plus trois de la même. Alors, j'imagine que pour que les stats tombent dans ce sens-là, il va falloir beaucoup de matchs qui tombent dans le bon sens. Mais
il va falloir que les Niners aillent mieux aussi. Hein. On n'a pas eu de santé, déjà, surtout, et qu'ils arrivent à trouver des remplaçants, parce que autant les trois autres, ils semblent pas trop mal embarqué, en tout cas c'est pas une hérésie de le penser à l'heure actuelle. San Francisco, même si je l'ai dit, il joue les deux franchises de New York là, va y avoir des tests un peu plus coriaces à venir quand même.
Maintenant, est-ce que les quatre équipes de la NFC West peuvent battre les quatre équipes de la NFC Est? Oui.
Oui, c'est possible. Après, oui, enfin,
il faudra voir avec les Cowboys.
Alors, c'est vrai que forcément, c'est mis en avant. Je me rappelle des Jaguars en 2017 qui avaient insisté sur le fait qu'ils avaient sweepé entre guillemets les équipes d'AFC Nord.
Super.
Mais je ne sais pas si ça arrive si souvent que des équipes d'une même division battent forcément que toutes les équipes de d'une autre division. Pardon. Je ne sais pas si c'est assez fréquent.
Arnaud Jets, alors, qui dit question de Hugo, 9 ans. Si Rodgers se blesse, est-ce que c'est mort pour les Packers? Et, ajoute son papa, quelles seraient les équipes qui, sans leur QB, ne seraient plus rien? Est-ce que si Rodgers se blesse, c'est mort pour les Packers? Bon, non, il y a Aaron Jones. Pour une fois.
Oui, non, il y a de quoi.
Puis il y a la défense.
Oui, bon, après, ce sera peut-être pas la même chose si c'est Aaron Rodgers ou si c'est Tim Boyle, je crois, son remplaçant. Encore moins si c'est Jordan Love.
Ah, bah, ça, des échos qu'on a. Jordan Amour.
On a quand même vu que Kansas City l'année dernière, sans Patrick Mahomes, c'était pas tout à fait la même chose. Ils ont quand même un petit moment de creux en cours d'année.
Typiquement, les Texans, c'est déjà pas exceptionnel.
Ah oui, non, on est d'accord.
Mais s'il n'y a pas Deshaun Watson, il n'y a vraiment plus rien. Enfin, je serais très inquiet pour eux. Et les autres, je vois pas de trucs évidents. Bah non, parce que tu vois, j'aurais pu te dire les Eagles, mais en fait les Eagles, c'est pas non plus la folie.
Peut-être que les Pats maintenant sans Newton, ça sera
un peu. Ah, ouais, et encore il y a la défense. Non, vraiment, moi, pour moi, les Texans, c'est. Arthur Lutte qui nous dit hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Petit quiz pour vous. Vous êtes en finale du Super Bowl, choisissez vos joueurs. Alors je te donne deux choix à chaque fois. Quarterback, Minshew le moustachu ou Josh Allen le solide?
Pardon, j'ai entendu finale du Super Bowl.
Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est marqué ça. Moi, je le dis sans réfléchir. Arthur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu me fais passer pour un...
Donc, Minshew ou Allen?
Heureusement que Alain est là pour nous rappeler à l'ordre. Minshew ou Allen?
Excusez-moi, je me suis permis d'intervenir.
Tu as bien fait.
J'irai quand même avec Minshew.
Ah, moi, je prends Josh Allen. Allez. Running back, Todd Gurley, un peu requinqué, ou Dalvin Cook?
Ah, Todd Gurley.
Bah, Dalvin Cook. Du coup, on va faire l'équipe opposée à chaque fois. Ouais. Receveur, DeAndre Hopkins ou Julio Jones?
Ah, t'es salaud. Julio Jones, je suis obligé.
Bah non, DeAndre Hopkins. Aïe, aïe, aïe. Linebacker, Jamal Adams ou Darius Leonard?
Qui c'est? C'est qui le premier?
Jamal Adams.
Linebacker, tu m'as dit?
Bah ouais. Non, mais je sais, hein, mais moi je lis les questions. Hein.
Ah ouais, d'accord. Bon, bah, Ron Stopper, si tu veux, je préfère avoir Jamal Adams.
Bah, ah bah, moi, Darius Leonard. Bah, décidément. Safety, Keenan Hill ou Earl Thomas? Là, quand même.
Mais c'est une question que pour moi ou
peut-être.
C'est pas les deux premiers qui me viennent à l'esprit quand même sur les safety aujourd'hui. Bah Neil, il y a une équipe.
Oh là là, mais moi je dis Earl Thomas. Eh ben incroyable. Et enfin, alors c'est peut-être là où on va se départager. Defensive end bonus, Raphaël ou Alain?
Oula. Defensive end en même temps. Je sais pas si tu m'as compris.
Je vais prendre Raphaël, voilà. Allez.
Et ben je vais quand même prendre Alain.
Allez, on verra qui a la meilleure équipe. Et il lui dit allez bise.
C'est ça pourquoi
toi,
je sens Raphaël un peu vicieux, tu sais.
Ouais,
il va dans les yeux, les deux.
Ouais, c'est pour ça que je le prends. Tiens, question pour toi de Papa Lions. Avez-vous des nouvelles de Grégory Richard depuis dimanche soir? Nous sommes très nombreux à être très inquiets. Ça va, Grégory?
Ah, ça va. Un peu malade en début de semaine. Ce qui explique mon silence, notamment sur les réseaux sociaux. Mais non, je vous rassure, tout va bien. Mais mes fenêtres restent fermées.
Et enfin, dernière question de Thomas Lucas. Je sais que c'est une question qui te tient particulièrement à cœur. Donc, je suis très content qu'on nous la pose. Là, il a peur. Salut l'équipe TDA, football fiction. Si l'équipe de LSU et Clemson étaient en NFL, quelle serait leur position? Dernier, ventre mou, playoff. Est-ce que des équipes NFL perdraient contre des équipes NCAA? Alors,
si tu veux que j'y réponde rapidement, LSU, ça dépend de quelle équipe on parle, parce que
l'année dernière, on me dit la saison passée,
ils ont été un peu pillés pendant l'intersaison.
On me dit la saison passée. Thomas, pour te mettre un peu dans le contexte, peut-être tu ne savais pas, mais du coup j'explique et pour les autres aussi, c'est un débat qui a eu souvent dans cette rédaction de Touchdown Actu. Et il y a d'un côté la team non NCAA dont je fais partie puisque je ne suis pas du tout, qui est convaincue que aucune équipe ne pourra jamais battre une équipe de professionnels. Et puis il y a les autres qui, pourquoi pas.
Je rappelle que ce débat est né quand même d'une discussion entre la grosse équipe d'Alabama de Nick Saban et on relativisait
et les Browns
de Hugh Jackson
à 0-16.
Donc c'était quand même à contextualiser. Après les Sioux n'auraient pas été ridicules l'année dernière, hein, si je réponds à ta question. Clemson peut-être un peu plus en retrait.
Et à l'inverse, du coup, est-ce que toutes les équipes NFL gagneraient un championnat universitaire? Le championnat universitaire, en l'occurrence.
Ça dépend lesquels, bien sûr.
Greg, quand même. 53 professionnels qui font que ça de leur journée toute l'année. Je vois pas à quel
mais
moment.
Tu crois qu'ils vont à l'école, les mecs qui ont des scholarships
ou... Ils sont pas censés. Je comprends pas.
On fait leur devoir. Qu'est-ce que tu racontes?
Ah oui, c'est vrai. Dans les séries américaines, à chaque fois, il y a.
Ah ben, en tout cas, si on parle d'Alabama, c'est pas au niveau des études qu'ils brillent. Hein, donc, c'est pour ça, moi, je te dis, hein, ils peuvent les prendre. Ils pouvaient prendre les Browns des toits dans le nez.
Je n'y crois pas une seule seconde. Je reste convaincu.
On
prend
la liste. Je retrouverai NFL. L'année où on a dit ça et je retrouverai la liste des joueurs d'Alabama et tu verras ce qu'ils font aujourd'hui en NFL.
Ça doit être 2016. Quelque chose comme ça.
Oh, c'est même plus ancien, je pense.
Tu crois? Ouais, je sais plus. Bon, mais merci Thomas, en tout cas, de raviver ce débat sans fin au sein de la rédaction. Et c'est comme ça que se termine ce podcast 363. Merci de nous avoir suivis. L'émission, évidemment, est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast en replay. Vous pouvez retrouver le site, bien sûr, sur tdactu.com, @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu au complet sur Instagram. On est aussi sur Twitter, @yellowradiosa pour Grégory, @RaoulVDG pour moi, @AlainMattei puisqu'il est là. Mais il pose que des gifs de chat, donc si vous n'aimez pas les gifs de chat, ce n'est pas la peine. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est bien sûr sur le site touchdownactu.com. Merci Greg.
Attends.
Oula, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas fini.
Qu'est-ce que ça fait?
Mais qu'est-ce qui se passe?
Aïe aïe aïe.
Bon anniversaire Raoul.
Merci alors, les amis.
Voilà, on prévient. Derrière, vous n'avez pas entendu joyeux anniversaire parce que comment dire, Raoul a une grande sympathie pour l'Allemagne.
Ah oui, sympathie.
Donc j'ai trouvé sur le Geburtstag Facebook.
Bravo. Danke sehr, danke sehr.
Ah oui, attends. 7 ans d'allemand quand même, hein, pour apprendre à savoir dire Zum Geburtstag, Philipp Glück, tu vois.
C'est vrai qu'il y a un petit passif quand même.
Ouais, il y a un peu de passif. Bon, joyeux anniversaire, Raoul.
Ben, merci les mecs, trop sympa, c'est vrai. Je suis content de fêter ça avec vous aussi un peu.
En plus, c'est bien parce que j'ouvre mon micro pile au moment où mon voisin a décidé de démolir son appartement, visiblement.
Mais on l'entend pas là, on entend juste les Allemands qui chantent. Hein,
ça va. Ah ouais, c'est bien, ça coupe.
Est-ce que Greg est tronçonneuse ou pas?
Non, il a pas de tronçonneuse comme celui de Raphaël.
D'ailleurs, Raphaël est en vie, tout va bien.
Ça te fait quel âge du coup, Raoul? Donne-moi un coup de vieux.
Ça me fait le chiffre tout rond de 30 ans.
Ah mais oui, c'était 30 piges en plus, joyeux anniversaire.
Oui.
Eh bien écoute, profites-en bien alors.
Merci. Je vais en profiter en renvoyant la fin de l'émission du coup, en remerciant Greg du coup.
Merci
et
à toi,
puis en remerciant plaisir. Alain aussi, en vous remerciant tous de nous avoir écoutés. Très bonne semaine de NFL sur les différentes antennes que vous avez regardé, tout ce que vous voulez. Et puis bah des bisous et à la semaine prochaine. Ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rotas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.